Vos bons voeux, à mon tour, je vous présente les miens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde et vous conduise tout au long de cette année. Je suis aussi extrêmement honoré d'apprendre que je suis le premier prédicateur pour le culte en français pour l'année 2016. Et justement, ce texte qui vient de nous être lu dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, est un texte que j'ai pensé comme des vœux en quelque sorte, un texte extrêmement encourageant pour chacun d'entre nous, et un texte qui, dans mon esprit, est là pour donner une direction tout au long de cette année pour chacun d'entre nous. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, comme vous le savez, n'est en réalité pas la deuxième. On a perdu deux lettres aux Corinthiens. Normalement, il devrait y en avoir quatre. Mais donc il y en a deux qui n'ont pas été portés à notre connaissance. Et dans cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, Paul est obligé, sous la direction du Saint-Esprit, de défendre son ministère. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul est critiqué, jugé par des chrétiens, probablement des judaïsants. Et jusqu'au chapitre 13, il va même au chapitre 13, donc, expliquer pour faire comprendre à ceux qui le dénigrent et à ceux qui assistent à ce dénigrement sans savoir trop que penser, leur faire voir combien cette expérience spirituelle que lui-même décrit avec quelques difficultés quand il dit « je ne sais si c'est dans mon corps ou hors de mon corps », cette fameuse montée, en quelque sorte, dans les lieux célestes. Donc, cette épître a été écrite par l'apôtre Paul sous la direction du Saint-Esprit pour remettre des choses dans l'ordre par rapport à son ministère, pour fermer, en quelque sorte, tous les effets du dénigrement dont il est victime, injustement d'ailleurs. Et il va, en même temps qu'il défend son apostolat, il va encourager les chrétiens. Alors, par exemple, dans le chapitre 1, verset 3 et 4, dans la traduction de la transcription de Paroles vivantes de M. Alfred Kuhn, il est écrit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », chapitre 1, verset 3. « Il est vraiment un Père plein de compassion ». Un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Et puis un petit peu plus loin, au verset 8 du chapitre 1, verset 8 à 10, l'apôtre va faire référence à un événement, une persécution particulière, puisqu'il dit « Il faut en effet que vous sachiez, frères, que nous avons dû passer par une terrible épreuve en Asie mineure. Nous avons été persécutés avec tant de violence que nous en étions absolument écrasés. Nous avons été excessivement accablés. Nos forces étaient à bout. Nous en étions venus à abandonner tout espoir de nous en tirer vivants, car nous avions le sentiment de voir tomber notre arrêt de mort. En notre fort intérieur, nous avions fait le sacrifice de nos vies. Tout cela nous est arrivé pour nous apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu, qui peut ressusciter même les morts. C'est lui qui nous a arrachés à une mort imminente et terrible. C'est pardon, de lui aussi que nous attendons toute délivrance à l'avenir. Il est notre espoir, il nous sauvera encore. » Donc ça, c'est un des textes assez rares dans les épîtres, où l'apôtre Paul exprime des sentiments, des émotions, un vécu par rapport à des situations bien spéciales. Ce qui rapproche en quelque sorte l'apôtre Paul de chacun d'entre nous. Il a connu toutes sortes de déboires, peut-être des déboires que nous ne connaîtrons jamais, mais que des chrétiens dans le monde à l'heure actuelle connaissent, Il risque la mort, même certains sont mis à mort à cause de leur foi. Et dans ce chapitre 2, l'apôtre va encourager donc les chrétiens de Corinthe, et au travers des chrétiens de Corinthe, chacun d'entre nous aujourd'hui, en disant par exemple au verset 14, dans toujours cette transcription de la parole vivante, « Je ne puis que remercier Dieu, partout où nous allons, en suivant le char triomphal de Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. » Alors dans la traduction second, et dans, je crois que c'est celle qui est là, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » L'apôtre veut rappeler aux chrétiens que le fait de suivre le Christ, donc l'expression « partout où nous allons en suivant le char triomphal de Christ », c'est une expression qui est liée aussi à la culture, puisque vous le savez, les empereurs romains, quand un de leurs généraux avait accompli une victoire, alors à ce général romain, il était monté sur un char avec tous les prisonniers derrière lui, puis ses troupes, et il avait quelqu'un à côté de lui qui tenait donc la couronne de laurier au-dessus de sa tête, et puis il parcourait toute la Via Appia à Rome, pour arriver devant les marches qui menaient au trône du dieu vivant de l'époque, c'est-à-dire du César. Et pendant qu'il parcourait cette distance, acclamé par la foule, alors l'esclave lui disait à son oreille « Tu n'es qu'un mortel, tu n'es qu'un mortel ». Et ça, c'était quelque chose qui était connu des Grecs de Corinthe. Hein. Et donc, l'apôtre, probablement, pour certains théologiens, prend cette image pour faire comprendre que nous suivons le Christ, qui lui n'est pas un homme, évidemment, qui est le Seigneur, et nous sommes derrière lui, c'est son armée, en quelque sorte, hein. Et c'est lui qui nous fait remporter les victoires, parce que lui, il est le chef suprême de l'Église, il est Dieu fait homme, il est le créateur de toutes choses. Et alors, ce qui est formidable, c'est que, dans la transcription, il est dit, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Et donc, en ce début d'année 2016, il est bon de se souvenir que, simplement, le fait d'être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire d'avoir été sauvé par lui et d'avoir décidé par sa grâce de vivre pour lui, de facto nous fait remporter les victoires. Et souvent c'est une perte de cette réalité qui nous amène parfois à être découragés, à être déstabilisés dans notre foi et dans notre vie de chrétien, en particulier dans ce monde qui refuse d'une manière assez systématique, en tous les cas en France, le message de l'Évangile. Souvenons-nous que de facto, de la même manière que dans les Évangiles, entre autres dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. » Hein, il ne dit pas « Essayez d'être la lumière », il ne leur dit pas « Essayez de briller », il dit « Vous êtes ». Donc de facto, la lumière, ça brille. Eh bien, étant chrétien, en communion avec notre Sauveur, quand nous commençons notre journée et quand nous la terminons le soir et pendant que nous dormons sous son regard et sa protection, eh bien nous sommes victorieux. Et quand vous allez tout au long de cette année, enfin ensemble nous allons, tout au long de cette année vivre pour le Seigneur, eh bien ne perdons pas de vue cette réalité. Nous sommes triomphants, le Christ nous fait triompher, quel que soit les situations, les apparences, les réactions que nous pourrons voir se développer en notre présence. Première donc conséquence de ce que j'ai appelé les effets de la présence de Dieu en nous, comme titre de message, eh bien, nous sommes triomphants, le Christ nous fait triompher, le fait d'être chrétien est déjà un triomphe. Et un triomphe dans l'humilité, dans la simplicité, un triomphe. Et ça donne donc un regard sur tout ce qui va nous arriver tout au long de cette année. Et dans nos relations, nos rencontres avec les uns et les autres, eh bien, nous allons, et nous sommes triomphants. En même temps, il développe des versets 14 à 15, il dit « En tout lieu, Dieu se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance de Christ. » Verset 15, « Oui, vraiment, nous sommes ce parfum de Christ. » Une parenthèse est ouverte dans cette transcription. « Ou, pour employer une autre image, cet encens offert par lui et qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. » Et là, c'est un rappel des sacrifices de bonne odeur de l'Ancienne Alliance. Notre vie en Christ, en communion avec Christ, est une bonne odeur. Est en bonne odeur, est une bonne odeur pour Dieu. Et là aussi, nous devons, tout au long de cette année, nous souvenir de cette réalité. Quelles que soient nos faiblesses, nos difficultés, nos interrogations, nous sommes une bonne odeur, dans la mesure où nous suivons le Seigneur, nous voulons être attachés à Lui, quelles que soient les complications de notre existence. Étant chrétien, né de nouveau, lui appartenant pour l'éternité, nous sommes triomphants et une bonne odeur. Alors, vous savez, vous vous embrassez, j'ai remarqué, certains d'entre vous vous m'embrassez, c'est très agréable, mais quand on m'embrasse, je repère les odeurs. Et je dois dire que tous ceux qui m'embrassent parmi vous sont d'agréables odeurs, parce que vous avez, surtout les jeunes femmes, beaucoup d'élégance dans le choix de vos fragrances et de vos parfums, et donc c'est très agréable. Et ça m'arrive partout, j'ai encore ce matin, dans l'église où j'étais, quelqu'un m'a embrassé, une dame mariée, et j'ai salué son mari, elle m'embrasse et elle me souhaite les bons vœux, et c'était vraiment agréable. Alors, spirituellement parlant, c'est la même chose. Mais aux yeux de Dieu, dans un premier temps, nous sommes une agréable odeur en Christ. Et puis, nous sommes aussi, comme il est dit un peu plus loin, Dieu fait qu'il répand parmi les perdus et parmi les sauvés, il répand un parfum de bonne odeur qui est la connaissance de Dieu. Évidemment, la personne de Christ, la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand on parle de lui, quand on amène quelqu'un à la connaissance de Christ, quand on partage quelque chose de Christ, c'est de bonne odeur. Mais ça peut aussi être une odeur de vie et une odeur de mort. C'est pour ça que des versets 15 et 16, il est dit, nous le sommes, donc cette bonne odeur, à la fois pour ceux qui se laissent sauver et pour ceux qui continuent à courir sur le chemin de la perdition. Donc dans les deux cas, nous sommes une odeur, une bonne pour ceux qui vont être sauvés. Il dit au verset 16, pour ceux-ci, c'est une odeur fatale, c'est-à-dire une odeur de mort, comme dit la traduction Second, entre autres. Pour ceux-ci, ceux qui vont mourir, c'est une odeur fatale qui vient de la mort et y conduit. Elle leur fait pressentir leur fin et le jugement. Pour les autres, ceux qui vont parvenir au salut, c'est un parfum vivifiant qui mène à la vie nouvelle, à la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens nous observent? D'abord, ils ressentent quelque chose. En tant que chrétien, il y a un témoignage qui émane de nous, par la présence du Seigneur en nous. Dans cette communion avec le Christ, nous diffusons cette odeur des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix, joie, sainteté, tendresse, miséricorde, certitude du salut, certitude de la vie éternelle, ce sont des bonnes odeurs. Et quand nous parlons de ces choses, ceux qui sont appelés à être sauvés, ceux qui cherchent Dieu, sont attirés. Vous savez, je vous l'ai dit, ma maman est en maison de retraite, j'ai dû rencontrer une responsable de cette maison de retraite sur le plan médical, l'infirmière coordinatrice, que je n'avais jamais rencontrée. Et elle me dit, je m'excuse, j'ai pas pu beaucoup vous voir, mais parce que je suis une jeune mariée, je suis allée me marier aux États-Unis, à Las Vegas. Alors je lui dis, ah bon? Et je lui dis, vous avez été mariée par un pasteur aux États-Unis. Hein. Elle me dit oui. Alors je lui dis, mais vous êtes protestante ou? Ah non, pas du tout, mais avec mon mari, on voulait pas se marier en France parce que ça coûte trop cher. Et donc on est parti aux États-Unis, on a profité d'un voyage, et puis on s'est marié à Las Vegas. Et elle me dit, mais c'était vraiment intéressant, parce que ce mariage avec ce pasteur aux États-Unis, c'était vraiment agréable, c'était gai, c'était joyeux. Et elle me dit, par rapport à en France ou dans le système, un autre système religieux, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus solennel, écrasant, etc. Et je lui dis, bah écoutez, moi je suis pasteur. Et alors elle me regarde et je lis dans son visage un intérêt, un désir, alors d'en savoir plus, hein, des choses de Dieu. Et alors je lui dis, bah oui, je pense qu'on pense correspondre un petit peu à la description que vous m'avez donnée de ce pasteur aux États-Unis. Elle m'a dit, en plus, il parlait français. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je vais vous offrir un calendrier, c'est le début de l'année, et un calendrier chrétien. Et quand je lui ai remis le calendrier 8 jours après, vous auriez vu ce qui s'est inscrit sur son visage, dans tout son être. Elle a pris le calendrier, elle a dit, oh ça, je suis contente, je vais le lire, j'ai 8 jours de retard, je vais le lire. Et je me suis dit, tiens, on va aller plus loin. Le Seigneur va permettre qu'on aille plus loin dans quelques temps. Et le plus loin, c'est qu'un jour, comme elle habite dans la région, je vais lui proposer une étude biblique, enfin quelque chose, qu'on aille plus loin, quoi. Donc il y a des gens comme ça qui sont prêts, qui sont intéressés. Et là, nous sommes une bonne odeur, l'odeur de Christ. Et puis il y a ceux que nous rencontrons, mais qui ne sont pas particulièrement intéressés. J'ai dû aller suivre quelques séances en kinésithérapie, et le kinésithérapeute n'a rien à faire de Dieu. Alors vous connaissez peut-être un peu plus ça que moi, il a toutes sortes de bouddhas dans son cabinet de travail, il a des bâtonnets d'encens, il a des représentations asiatiques, enfin on voit un peu le genre, hein. Et donc moi on amène la conversation, puis moi je lui dis, ben voilà, moi je suis chrétien, et, bon, je sens que ça coince un peu, quoi. Et je lui dis, écoutez, puisque c'est Noël, est-ce que vous connaissez le sens de Noël, de l'histoire de Noël? Alors, il savait pas grand-chose. Donc, je lui ai dit, écoutez, je vais vous amener un petit livre, et qui s'appelle Le cadeau de Dieu, c'est sur l'histoire de Noël. Alors, je veux faire ce livre, il m'a remercié, mais il m'a dit, je suis pas prêt de le lire. Je lui ai dit, ok. Odeur de mort. Là, j'ai repensé à ce verset. Parce qu'il sait très bien qu'il est perdu. Il sait très bien qu'il est pécheur. Il sait très bien que Dieu existe. Puisque l'Épître aux Romains nous affirme que nul n'ignore l'existence de Dieu, chapitre 1 hein, de l'Épître aux Romains. Alors je me suis dit, tiens, là je suis une odeur de mort, parce que je lui rappelle, comme le dit le texte inspiré, je lui rappelle le fait que... Il est conduit à pressentir leur fin et le jugement. C'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc tout au long de cette année, nous serons ensemble une odeur de vie ou une odeur de mort. Et ça fait partie du plan de Dieu pour justement sauver ceux qui sont prêts à être sauvés. Et puis l'odeur de mort, ça va créer chez eux, probablement par la grâce de Dieu, le désir aussi d'aller plus loin et de connaître le Seigneur. Et ensuite, l'apôtre dit au verset 16, « Et qui donc est à la hauteur d'un tel ministère ?» Alors, dans ce passage, très précisément, l'apôtre défend son ministère. Et en même temps, il explique que ce qu'il vit en Christ, tous les chrétiens peuvent le vivre. Et c'est pour ça que maintenant il dit, mais qui est donc à la hauteur d'un tel ministère? Quel homme est capable d'assumer pareille responsabilité? Vous et moi, nous ne sommes pas capables d'assumer de telles responsabilités. Mais Dieu a choisi de nous utiliser et de faire de nous, justement, ce parfum particulier de Christ auprès de tous les hommes. C'est pour ça qu'au chapitre 3 de la deuxième de Paul aux Corinthiens, il est dit au verset 5, l'apôtre dit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Je ne sais pas si on imagine le chemin parcouru ou le chemin que le Saint-Esprit a fait parcourir à l'apôtre Paul. à Saul de Tarse, à ce pharisien qui demandait des lettres de recommandation pour aller à Damas persécuter l'Église de Christ, quelqu'un qui prenait des initiatives, qui avait des projets pour sa religion, une forte personnalité, quelqu'un qui ne prenait pas le conseil des uns et des autres, simplement il demandait des lettres de recommandation parce que c'était un leader. Et il menait, en quelque sorte, la contre-réforme par rapport au christianisme, pour protéger le judaïsme. Et voilà que cet homme qui est habitué à prendre ses décisions, à échafauder des plans et à faire selon sa volonté et son inspiration, voilà qu'il nous dit quelques années après, plus de 10 ans après, il dit ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Il a donc appris ce que c'est que cette relation avec Christ, cette intimité avec le Seigneur, cette dépendance du Christ. Il n'échafaude plus des plans, il se laisse conduire. Et le livre des Actes des Apôtres est là justement pour nous permettre de nous rendre compte de ces réalités. Lorsqu'avant de passer chez les Corinthiens, il avait prévu d'aller en Abitibi, ça c'est l'Abitibi, c'est le Québec, pardon. J'ai oublié le nom, tiens. Quand il dit l'Esprit de Dieu nous empêcha, parce qu'il est en marche dans la communion avec Dieu, eh bien il avait des projets pour être en Asie mineure, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit lui empêche d'aller en Lydie, puis j'ai oublié l'autre nom. Et dans la nuit, il a une vision, un Macédonien qui lui dit « passe de l'autre côté ». Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé d'ailleurs à Corinthe, là où il n'avait pas envie d'aller, le fief du péché, le fief des philosophies, de la puissance économique, enfin tout ce qui s'élève contre Dieu, toute la philosophie et l'occultisme, et il est là à Corinthe. Et il sait qu'il n'y est pas par ses propres plans. Mais il a appris à suivre le Seigneur, à se laisser guider. Et c'est aussi ce que le Seigneur souhaite pour chacun d'entre nous tout au long de cette année. Que nous apprenions toujours davantage à nous laisser conduire. Là où nous sommes dans notre sphère familiale, professionnelle, d'église, de voisinage, nous laisser conduire par le Seigneur afin qu'il puisse nous utiliser comme il a prévu de le faire. Et que nous ayons cette joie de savoir que nous sommes une bonne odeur et que Dieu, nous sommes dans la main de Dieu, souple et obéissant. Et ainsi nous pourrons dire, mais cela ne vient pas de nous. Et nous ne chercherons plus à faire des choses, mais à laisser Dieu faire des choses au travers de nous, comme il le dit dans le début de ce passage. En tout lieu, au verset 14, en tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum agréable la connaissance du Christ. Et puis il va rajouter quelque chose au verset 17. Il dit, certes, suite au verset 16, et qui donc est à la hauteur d'un tel ministère? Quel homme est capable d'assumer pareille responsabilité? Dans cette transcription, il est dit « Certes, pas ceux, et ils sont nombreux, qui falsifient la parole de Dieu ou font de sa prédication une affaire rentable. » Alors le terme grec est utilisé, falsifié, à l'époque où l'apôtre a écrit. C'était un terme qui soulignait le fait que on vendait quelque chose qui n'avait pas de valeur. Et donc, falsifier l'Écriture sainte, c'était pour certains de ceux, et ils sont nombreux, qui faisaient cela, c'était, comme aujourd'hui, hélas, un moyen de gagner de l'argent ou un moyen d'exercer une autorité sur les personnes. Et donc l'apôtre dit, mais nous ne sommes pas de leur nombre, car si nous annonçons la parole, c'est en toute sincérité, comme des hommes qui n'ont pas à craindre la lumière du jour. Nos attentions sont pures, nous agissons en envoyé de Dieu, proclamant sa parole telle qu'elle vient de lui. Et là, il aborde un sujet, une problématique assez intéressante pour nous les chrétiens, c'est que nous pourrions avoir des difficultés à annoncer l'Évangile dans sa pureté. À un moment donné, dire à quelqu'un qu'il est perdu, c'est pas toujours évident dans notre siècle actuel. C'est pas toujours facile. Et je connais des chrétiens qui, dans leur témoignage, glissent légèrement et arrondissent en quelque sorte les angles, comme l'on dit, hein, pour ne pas parfois dire, porter l'épée de l'esprit dans la conscience de l'individu. Alors je ne suis pas, on se connaît depuis suffisamment longtemps, vous savez que je ne suis pas du style à imposer des choses aux perdus. Mais simplement, il y a un moment donné, on est bien obligé de dire à quelqu'un, et ça m'est arrivé samedi matin à la maison, on a un contact qui disait, mais moi je suis pas plus mal que n'importe qui d'autre. Je suis peut-être même mieux que certains hommes, certains collègues. Et avec mon épouse, on lui a dit, on se connaît suffisamment maintenant, on lui a dit, mais le problème c'est pas par rapport aux autres, par rapport à Dieu. Et par rapport à Dieu, tu peux pas être mieux que Dieu. Et alors, comment ça? Ben, j'ai dit, écoute, tu peux quand même pas prétendre être de la qualité de Dieu, de sa sainteté, de sa pureté, tu es un pécheur. Alors il a dit, oui, je suis un pécheur, mais quand même mieux que les autres. Et on lui a dit, mais t'es certainement mieux que les autres, parce qu'après tout, il y a des hommes et des femmes qui se comportent mieux que certains. Mais on lui a dit, néanmoins, t'es perdu. Et c'est très intéressant de voir comment l'Esprit de Dieu l'amène progressivement à prendre conscience de la sainteté de Dieu pour pouvoir se convertir, parce que tant qu'il n'a pas conscience de la profondeur de son péché et de l'immense sainteté de Dieu, pourquoi être sauvé, hein? Et alors on voit que Dieu est en train de travailler son orgueil, de sa vanité qui est liée au péché, on a tous, Dieu nous a tous sortis de ces choses pour nous amener à lui. Alors, n'oublions pas que pour être une bonne odeur, n'oublions pas qu'il ne faut pas falsifier la parole de Dieu. Et que pour être triomphant, il ne faut pas non plus la falsifier. C'est-à-dire, en quelque sorte, arrondir les angles, éventuellement la dénaturer. Pourquoi? Parce que toute la puissance de la victoire et du triomphe du Christ, il est justement dans l'annonce de l'Évangile. Dans l'annonce de son œuvre, de sa personne, de sa sainteté, de sa pureté, de son amour, de sa mort sur la croix, de sa résurrection. Et donc, nous serons triomphants, ensemble, derrière le Christ, d'autant plus que nous apprendrons de Dieu à être une bonne odeur, à nous confier en lui, sans projeter particulièrement de plans auxquels on voudrait absolument tenir, mais en le laissant nous diriger, parce que l'apôtre lui-même avait des plans, et Dieu modifiait un peu ses plans quand il le souhaitait, et puis en annonçant l'Évangile avec la douceur du Christ, son intelligence, son amour, mais sans falsifier la parole. Quand il faut dire à quelqu'un qu'il est perdu, il faut lui dire un jour ou l'autre. Quand il faut dire à quelqu'un qu'il est pécheur, il faut lui dire un jour ou l'autre. Et ainsi, vous et moi, nous serons triomphant et plein de vie et de puissance du Saint-Esprit. Alors que Dieu nous conduise chacun tout au long de cette année 2016 et qu'il accomplisse sa volonté dans la vie de chacun d'entre nous. Amen.